7. On s'élança. Kla s'était déplacé à une vitesse vertigineuse quand il avait attaqué Iota, mais c'était une explosion de violence soudaine dans un espace clos. 70 mètres nous séparaient des armes. Il devait trimballer un sacré poids, au moins 150 kilos, et je me disais qu'en sprintant, je parviendrais à sa hauteur à mi-chemin des armes. La Léa de mon rêve avait raison, j'étais plus rapide que je ne le croyais. Malgré cela, je serais quand même obligé de lui couper la route, et à ce moment-là, je me retrouverais en plein dans son champ de vision, si réduit soit-il. Plus dangereux encore, je lui tournerais le dos. C'est pourquoi je bifurquais sur la gauche, lui laissant la voie libre jusqu'aux lances. J'eus à peine un regard pour les gants à pointe, car s'il pouvait se révéler mortel, il m'obligerait à approcher de Kla, à porter d'un coup de lance, et j'avais vu combien il pouvait être rapide dans cette situation. Ce que je visais, c'était les bâtons. Grâce aux récréations, j'avais appris à les manier. J'en sortis un du panier, me retournai et vis Kla qui fonçait déjà sur moi en tenant la courte lance au niveau de la taille. Il exécuta un mouvement de bas en haut, dans l'espoir de m'ouvrir en deux des couilles au ventre et d'en finir au plus vite. Je reculai d'un pas et abattis mon bâton sur son bras pour tenter de le désarmer. Il poussa un cri de douleur et de colère, sans lâcher toutefois son arme. Quelques applaudissements crépitèrent dans le public, et j'entendis une femme, certainement Petra, brailler « Coupe-lui le pénis et apporte-le-moi !» Kla chargea de nouveau, la lance levée au-dessus de l'épaule cette fois. Il n'y avait aucune finesse en lui, à l'image de Mike Tyson dans ses vieilles vidéos de boxe que je regardais avec Humdi Chen et mon père. C'était le castagneur de base, habitué à envoyer ses adversaires au tapis grâce à une attaque frontale et brutale. Pour Kla, cela avait toujours marché, et ça marcherait encore aujourd'hui face à un adversaire beaucoup plus jeune. Il avait l'avantage du poids et de la longe. À en croire la Léa de mon rêve, j'étais plus rapide que je le croyais. En tout cas, j'étais plus rapide que le croyait Kla. Je fis un pas de côté comme un torero qui esquive un taureau et assénai un nouveau grand coup de bâton sur son bras, juste au-dessus du coude. La lance lui échappa et atterrit dans l'herbe. Les spectateurs émirent un « Ah !» Petra exprima son mécontentement d'un cri strident. Kla se baissa pour ramasser son arme. Je lui donnai un coup sur la tête en tenant mon bâton à deux mains de toutes mes forces. Le bâton se brisa. Le sang jaillit du cuir chevelu de Kla, inondant ses joues et son cou. Ce coup aurait étendu n'importe qui, y compris Iota et Amit. Mais Kla, lui, secoua la tête, récupéra sa lance et me fit face. Il ne souriait plus. Il grognait, les yeux rouges. « Approche, fils de chienne » cracha-t-il. « Dans tes rêves, montre-moi ce que tu sais faire. Tu es aussi débile que moche. » Je brandis ce qui restait de mon bâton. L'extrémité était un bouquet d'esquilles. C'était du bois dur, et si Kla se jetait dessus, elle ne ploierait pas. Elle s'enfoncerait dans son ventre, et il le savait. Je fis mine d'attaquer, et quand il recula, je me faufilai sur sa droite, ce qui l'obligea à tourner la tête pour me déloger de son poing aveugle. Il bondit, et je le frappai dans le gras de l'avant-bras, arrachant un lambeau de peau et projetant une giclée de sang dans l'herbe verte. « Achève-le !» beugla Petra. Je reconnaissais sa voix maintenant, et je la haïssais. Je haïssais cette femme. Je les haïssais tous. « Achève-le, espèce de gros balourd hideux !» Kla chargea de nouveau. Cette fois, je me déplaçais vers la gauche en reculant derrière la table sur laquelle étaient posés les gants cloutés. Kla ne ralentit pas. Il respirait vite, par à-coups. Je me jetais sur le côté. La pointe de sa lance manqua de peu mon cou. Il heurta la table, la renversa et retomba dessus, brisant un des pieds. Il s'accrocha à sa lance malgré tout, mais ça m'allait très bien. Je me plaçais dans son poing aveugle, sautais sur son dos et enserrais son abdomen avec mes cuisses pendant qu'il se cabrait. J'appuyais mon morceau de bâton en travers de sa gorge au moment où il se relevait d'un bond. Il tenta de m'agripper par derrière en martelant mes épaules de ses poings énormes. S'ensuivit une folle chevauchée. J'avais les jambes nouées autour de sa taille épaisse et mon bâton brisé écrasait sa gorge. Je sentais chacune de ses tentatives pour déglutir. Il commença à émettre des gargouillis. Finalement, N'ayant plus d'autre option que l'évanouissement, suivi de la mort, il se jeta en arrière pour m'écraser sous lui. Je m'y attendais. Que pouvait-il faire d'autre? Mais j'eus quand même le souffle coupé. Conséquence des 150 kilos. Il se balança de droite à gauche pour m'obliger à lâcher prise, mais je tins bon. Même lorsque des points noirs commencèrent à danser devant mes yeux et que les cris des spectateurs se mirent à résonner de manière lointaine, seule me parvenait distinctement la voix de la favorite du roi, une aiguille pointue qui s'enfonçait dans mon crâne. « Debout ! Libère-toi, grosse brute ! Debout !» J'allais peut-être mourir écrasé sous cette grosse brute, mais pas question de relâcher mon étreinte. J'avais effectué une grande quantité de pompes dans ma cellule et autant de tractions avec les anneaux. Je fis bon usage de ces muscles, alors même que ma lucidité commençait à décliner. Je tirais le bâton vers moi. Tirais. Et enfin, je sentis qu'il se débattait plus faiblement. Rassemblant mes dernières forces, je repoussais l'arrière de son crâne et gigotais pour essayer de me libérer de la masse de son corps. Je me contorsionnais dans l'herbe, les cheveux dans les yeux. J'aspirais de grandes bouffées d'air. J'avais l'impression que je n'arrivais pas à en avaler assez, ou bien l'air n'arrivait pas au fond de mes poumons écrasés. Ma première tentative pour me mettre debout échoua. Alors je continuais à ramper sur le dos, suffoquant et toussant, certain que ce salopard, ce fils de pute, de clat, allait se relever derrière moi et que j'allais sentir sa lance s'enfoncer entre mes omoplates. La seconde tentative fut la bonne. Je parvins à me relever, en titubant comme un ivrogne, et fis face à mon adversaire. Il se relevait à son tour, ou plutôt, il essayait. La majeure partie de son visage était masquée par le sang après le coup sur la tête que je lui avais asséné. Le peu que je voyais était violacé par la strangulation. « À mort !» hurla Petra. Des taches rouges marbraient son fond de teint blanc. Elle avait changé de camp apparemment, mais je n'avais que faire de ses encouragements. « À mort ! À mort !» Les autres reprirent en chœur. « Ah, mort ! Ah, mort ! Ah, mort !» Clara roula sur le côté et me regarda. S'il demandait grâce, ce n'était pas à moi de la lui accorder. « Ah, mort ! Ah, mort ! Ah, mort !» Je ramassai sa lance. Il leva la main et porta le talon de sa main à son front. « Mon prince !» et la laissa retomber. J'aimerais vous dire que je retrouvais ma bonté d'âme à la fin, vous dire que j'éprouvais des regrets. Ce serait faux. Il y a un puits sombre en chacun de nous, et il ne se tarit jamais. Mais vous vous y abreuvez à vos risques et périls, car c'est une eau empoisonnée. 8. On m'obligea à m'agenouiller devant Eldon, sa putain, et d'autres membres éminents de sa suite.
« Joli combat ! Joli combat !»
dit le roi d'un air absent. De la bave coulaient des commissures de sa bouche molle, et un liquide épais qui n'était pas des larmes suintait au coin de ses yeux énormes.
« Porteur ! Je veux mes porteurs ! Je suis fatigué ! Et je dois me repousser avant le dîner. »
Un quatuor d'hommes gris, difforme mais baraqué, dévalèrent un des escaliers raides en tenant un palanquin orné de moulures en or avec de gros coussins en velours violet. Je n'eus pas l'occasion de voir Flight Killer s'y hisser, car une main puissante m'agrippa par les cheveux et me remit debout. Je suis grand, mais Red Molly me dominait. En levant les yeux vers elle, je repensais à la statue sur laquelle j'avais grimpé pour assister au vol des monarques. Son visage terreux, rond et plat, ressemblait à un large plat à tarte saupoudré de farine. Ses yeux étaient noirs.
« Aujourd'hui, tu as affronté un ennemi. »
Le grondement de sa voix de basse n'avait rien de réconfortant, mais c'était moins désagréable que le bourdonnement de sauterelles des soldats de la nuit ou les gargouillis d'Elden. « La prochaine fois, tu affronteras un ami. Si tu survis, c'est moi qui te couperai la bite. » Elle baissa la voix. « Et je l'offrirai à Petra pour compléter sa collection. » Je suis sûr que le héros d'un film d'action aurait trouvé une réplique humoristique, mais en regardant ce large visage et ses yeux noirs, pas une seule putain de répartie ne me vint à l'esprit. 9. Ce fut le grand intendant en personne qui m'escorta jusqu'au vestiaire. Je me retournai avant de pénétrer dans le couloir, juste à temps pour voir le palanquin, rideau tiré, gravir l'escalier abrupt en chancelant. Je supposais que Petra, la créature au grain de beauté, se trouvait à l'intérieur avec Flight Killer. « Tu m'as surpris, Charlie !» avoua Kéline. Maintenant qu'il était débarrassé de la pression de son rôle de maître de cérémonie, il paraissait détendu, presque joyeux. « Je pensais que Kla ne ferait qu'une bouchée de toi. La prochaine fois, tu te battras contre un ami. Pas Ayota, je pense qu'on le gardera pour plus tard. La petite Jaya, peut-être. Ça te plairait d'arrêter son cœur comme tu as arrêté celui de Kla ?»
Je ne répondis pas. Je continuais d'avancer devant lui dans le couloir pentu en demeurant le plus loin possible de son aura à haute tension. Quand on atteignit le vestiaire, Kéline ne me suivit pas à l'intérieur, se contentant de refermer la porte derrière moi. 32 détenus s'étaient affrontés sur le terrain. Maintenant, il n'était plus que 15 à exprimer leur étonnement en découvrant que ce n'était pas Kla, mais votre serviteur qui revenait, amoché, mais vivant. Non, 14 seulement, car Gully était toujours inconscient. Pendant un instant, tous me regardèrent sans rien dire. Puis 13 d'entre eux tombèrent à genoux et plaquèrent leurs paumes sur leur front. Dogfried ne pouvait pas s'agenouiller, mais il salua comme les autres, adossé au mur. « Mon prince !» dit Jaya. « Mon prince !» répétèrent les autres. Jamais je ne m'étais autant réjoui que les caméras de surveillance n'existent pas à Empis. 10. On se débarrassa de la terre et du sang. L'horreur de la journée, elle, demeura. Iris baissa le pantalon de Fried pour nettoyer au mieux sa profonde entaille à la cuisse. De temps à autre, elle s'interrompait et me regardait. Ils me regardaient tous, d'ailleurs. Au bout d'un moment, parce que ça me faisait flipper, je leur demandais d'arrêter. Ils prirent soin alors de bien montrer qu'ils ne me regardaient pas, ce qui n'était pas mieux, peut-être même pire. Après 10 ou 15 minutes, 4 soldats de la nuit firent leur entrée. Le leader agita sa badine pour nous ordonner de le suivre. En l'absence d'homme gris, il fallut porter Gully. Je voulus le prendre par les bras, mais Amit m'écarta d'un coup d'épaule, gentiment.
« Non, non, moi et le balèze, on s'en occupe. »
Il devait parler d'Ayota, étant donné que l'autre balèze n'était plus qu'un tas de viande en train de refroidir.
« Aide le doc, si tu veux. »
Mais là encore, on ne me laissa pas faire. Après tout, j'étais le prince annoncé, à leurs yeux. Même s'il y avait la couleur de mes cheveux et de mes yeux, moi j'avais des doutes. Je me voyais comme un garçon de 17 ans, plutôt en forme, qui avait eu la chance de tomber sur un adversaire doté d'un champ de vision restreint et qui avait su domestiquer ses pires instincts assez longtemps pour survivre. En outre, avais-je envie de jouer le rôle du prince dans ce sombre conte de fées ? Ce que je voulais, c'était récupérer ma chienne et rentrer à la maison. Maison qui ne m'avait jamais paru aussi lointaine. On regagna lentement nos cellules à Deep Maline. Murph avec son épaule embouillie, Jaya, Amit, Ayota, Dogfried, Bolt, Bendo, mais seul, Kamit,
Double et Stux avec son visage salement amoché. Quilly, Oka, Gully toujours inconscient. Et moi, 16 prisonniers. Dogfried et Gully ne pourraient pas participer au prochain tour. Mais je devinais qu'ils ne seraient pas exemptés. On les obligerait à affronter des adversaires qui les massacreraient en moins de deux pour le plaisir d'Elden, de Petra et d'une poignée de sujets. Ceux qui tomberaient contre Frid et Gully remporteraient une victoire par abandon. Par ailleurs, Murph et Stux avaient peu de chances de survivre jusqu'au carré final. La porte au fond du couloir était ouverte. Ayota et Amit passèrent les premiers en transportant Gully. Quilly et Frid les suivirent. Quilly soutenait le doc pour qu'il n'essaie pas de s'appuyer sur sa patte folle. De toute façon, Frid ne marchait pas vraiment, il était plus ou moins dans les vapes. Son menton rebondissait contre sa poitrine. Au moment où on retrouvait Deep Malin, il dit une chose si terrible, si désespérée que jamais je ne l'oublierai. « Je veux ma maman. » L'applique installée derrière la porte était tombée de nouveau. Elle pendait au bout de son tuyau métallique. La lampe s'était éteinte. Un de nos gardes la remit en place d'un geste brusque et la foudroya du regard comme pour la mettre au défi de retomber. Elle n'osa pas.
« Ce soir, dîner spécial, petit !»
annonça un des autres.
« Une super bouffe avec un dessert pour finir !»
On entra dans nos cellules. Ayota, Stux et moi avions le plaisir, si je peux employer ce terme, d'être seuls maintenant. Quilly porta Frid dans sa cellule, l'allongea délicatement sur sa paillasse et regagna celle qu'il partageait avec Kamit. On attendit que les soldats de la nuit ressortent, bras écartés pour commander à distance la fermeture des cellules, mais ils se contentèrent de verrouiller la porte qui donnait sur le monde extérieur. Un verrou, deux verrous, trois verrous, quatre verrous. Apparemment, en plus de la super bouffe, on avait le droit de se mélanger, pour quelque temps du moins. Eris se rendit dans la cellule de Gully afin d'examiner sa plaie à la tête. Une blessure horrible, inutile d'entrer dans les détails. Il respirait par à-coups, son souffle était rauque. Eris leva vers moi ses yeux fatigués. « Il ne passera pas la nuit, Charlie. » Et puis, avec un éclat de rire amer, « Et nous non plus, car il fait toujours nuit ici. » Je tapotai son épaule et rejoignis Ayota dans sa cellule, qu'il avait choisi de ne pas quitter. Il était assis contre le mur, les poignets sur les genoux, les mains dans le vide. Je m'assis à côté de lui.
« Qu'est-ce que tu veux, bordel ? Je préfère rester seul. » Si Sa Majesté Royale de Meideux n'y voit pas d'inconvénient.
Tout bas, je demandais s'il y avait un moyen de sortir d'ici, un moyen de s'enfuir.
Tu tenterais le coup avec moi ?
Il leva lentement la tête, me regarda et se mit à sourire.
Montre-moi le chemin, trésor, c'est tout. Et les autres, ceux qui sont valides.
Son sourire s'élargit.
Ton sang royal te rend débile, prince Souné, à ton avis ?